On va continuer avec Bouvard et Pécuchet. Évidemment, je ne dois pas vous présenter Anne Hirschfeld, que vous connaissez tous. Elle est professeure à l'Université Paris 8. Elle est responsable aussi de l'équipe Flaubert dans ITEM et elle est une des responsables de Fractal qui organise tous ces colloques, comme vous le savez tous.
Merci beaucoup. Donc, je pense que vous allez voir que mon exposé se situe dans le prolongement des exposés qui ont été faits aujourd'hui, ce matin, et celui qui vient de se faire. Et moi, j'ai cherché à approfondir l'étude que j'avais proposée l'année dernière sur le chapitre religion de Bouvard et Pécuchet. J'avais travaillé sur c'est pas encore publié, sur les brouillons du dialogue entre le curé et Bouvard concernant la science et la religion. Et aujourd'hui, je m'intéresserai au mouvement de l'épisode qui met en scène la critique rationaliste dans son débat avec la religion catholique défendue par l'abbé Geoffroy. Rappelons brièvement les événements. Après leur tentative de suicide à la fin du chapitre de la philosophie, les deux bons hommes séduits par la messe de Noël se tournent vers la religion qu'ils commencent à pratiquer. Ils font un pèlerinage à la délivrante, puis communient, mais la foi ne vient pas, du moins chez Bouvard. Ceci relance un nouveau mouvement du chapitre, le mouvement du doute, amorcé par Bouvard et repris par Pécuchet, et conduit à la recherche des sources face au dogmatisme réaffirmé du curé. Aux questions alternées de Bouvard et Pécuchet s'ajoutent les scènes itératives au château avec le comte et son entourage, présentées dans les scénarios comme simultanées aux discussions particulières avec le curé. Puis il y a l'histoire dont on vient de parler avec les deux enfants de Touache qui motive l'épisode de l'éducation. Flaubert met 5 mois à construire et rédiger son 9e chapitre, terminé en janvier 80. Il écrit à Caroline le 11 janvier mon chapitre est fini, je l'ai recopié hier, où j'ai écrit pendant 10 heures. Aujourd'hui, je le recorrige et le recopie. À chaque nouvelle lecture, j'y découvre des fautes. Il faut que ce soit parfait. C'est la seule manière de faire passer le fond. Et il explique dans une autre citation que je vous épargne qu'il souhaite rendre ses idées plastiques. Et pour ce faire, il diversifie les lieux de discussion avec le curé et les autres personnages, et surtout les effets de comique. Jacques Neffs a notamment commenté la controverse de Pécuchet avec le curé sous la pluie. Alors les sources de ces discussions ont été en premier lieu identifiées par Alberto Cento, et puis récemment par un japonais, Taro Nakajima, qui a fait une bonne thèse sur les figures religieuses chez Flaubert, soutenue en 2009, et il confronte les sources religieuses et rationalistes de Flaubert et ses notes de lecture avec non seulement Bouvard et Pécuchet, mais il le met en parallèle avec la Tentation de Saint-Antoine et d'autres textes. Et il fait ressortir à quel point Bouvard apparaît comme la contrepartie comique de la Tentation. Alors rappelons aussi que Flaubert s'intéresse de longue date à l'histoire des religions, mais qu'il étend ses lectures au moment de Salammbô et puis de la Tentation, et pour Bouvard et Pécuchet, et en témoigne la liste des lectures pour la version de 1974, qui est publiée en annexe de l'édition Folio, qui contient nombre de titres utilisés pour Bouvard et Pécuchet, mais aussi en témoigne les carnets de travail, la correspondance, puis les listes de lecture et les notes de lecture contenues dans le dossier religion, mais aussi le dossier philosophie de Bouvard et Pécuchet. Et enfin, ils sont aussi très précieuses, en contrepoint des notes de lecture, les mentions dans les scénarios et les brouillons de Flaubert. Bon, rappelons encore que le débat entre science et religion n'est pas nouveau dans l'œuvre de Flaubert, que dans Madame Bovary, on le sait bien, Monsieur Homais s'oppose à l'abbé Bournisien, mais il me semble que ce qui distingue fondamentalement Bouvard et Pécuchet et les œuvres ultérieures à Bovary, c'est que Flaubert ajoute au débat des Lumières les lectures de l'exégèse religieuse du XIXe siècle qui informe la mise en œuvre des controverses, en tout cas dans Bouvard et Pécuchet. Alors, dans ce vaste sujet de la critique rationaliste dans Bouvard et Pécuchet, je tracerai mon chemin en commençant par suivre le fil du livre fictif d'exégèse religieuse envoyé par l'ami Barberoux, c'est-à-dire l'examen du christianisme par Hervieux. Je m'intéresserai à son devenir dans les brouillons et à ses réapparitions dans le dialogue. Et ceci me conduira à étudier les lignes argumentatives de Bouvard et de Pécuchet, et pour conclure, la question du discours d'auteur. Donc d'abord, l'examen du christianisme par Louis Hervieux. L'examen du christianisme par Louis Hervieux, ancien élève de l'école normale, est un ouvrage fictif, comme vous le savez, présenté comme un résumé de l'exégèse rationaliste du christianisme. Flaubert a recours dans le roman à deux autres manuels fictifs, l'examen du socialisme par Morand, au chapitre de la politique, qui fait pendant à l'examen du christianisme, et puis le cours de philosophie à l'usage des classes par M. Guénier, au chapitre philosophique, qui semble inspiré en grande partie par un manuel de philosophie spiritualiste de Mallet, qui a été le professeur de Flaubert. Ces références fictives sont un moyen commode pour rassembler des idées dans une synthèse unifiée, plus tendancieuse ou bouffonne dans le cadre du socialisme, mais plus sérieuse dans le cadre de la philosophie ou de la religion. Il est alors toujours intéressant, séduisant, de chercher une source principale. Dans le cas d'Hervieux, Taro Nakajima a identifié principalement, à la suite de Cento, l'ouvrage de Patrice Larocque, « L'examen des dogmes de la religion chrétienne », dont le titre est assez proche, paru en 1860 et mis à l'index comme le livre de Louis Hervieux. Il avait été vraisemblablement recommandé à Flaubert par ses amis Baudry, Maury et Renan, et l'édition annotée se trouve à la bibliothèque de Canteleu avec des annotations, enfin des croix et des traits en marge de la part de Flaubert, et il existe 6 pages complètes de notes dans les notes de Flaubert, dans les dossiers de Flaubert. Mais la référence fictive recouvre d'autres textes d'exégèse religieuse du XIXe, des sources du XVIIIe siècle comme Voltaire, et bien sûr la référence philosophique fondamentale qu'est Spinoza. Et mentionnons que dans le chapitre, à côté du nom d'Hervieux, les seuls autres noms d'auteurs réels cités dans le texte comme anti-religieux sont Spinoza pour le Tractatus Philosophico-Theologicus, livre lui aussi mis à l'index, que Flaubert lit pour la première fois en 1870, et les auteurs matérialistes du XVIIIe siècle, Bouvard se retrempe, je cite, dans la Métrie et d'Holbach, car il a déjà consulté la Métrie au chapitre de la philosophie, et on voit que le choix se radicalise dans le chapitre de la religion, parce que ce n'est plus d'Holbach et Helvétius, mais ce n'est plus la Métrie et Helvétius, mais la Métrie d'Holbach, c'est-à-dire qu'au nom de Locke et d'Helvétius, on a un matérialiste athée qui est substitué. Et Pécuchet, de son côté, lit le curé Mélier par, je cite, « malveillance anti-religieuse » à la suite du débat sur les martyrs. Mais, je cite, « ces négations lourdes le choquèrent ». La référence fictive à Hervieux permet à Flaubert de construire un modèle des lieux communs de la critique rationaliste, fondé sur la critique des dogmes de la religion chrétienne et la mise en valeur des contradictions de la Bible. Il n'a d'abord pas de titre dans les brouillons. Dans le 6e scénario général, puis dans les scénarios partiels, il est décrit comme un livre impie qu'envoie Barberoux et que le bonshomme repousse. Je cite, « Barberoux leur envoie le livre impie qu'il leur a promis, il le repousse sur le titre. » Les scénarios partiels précisent ensuite, « Bouvard a recours au livre de Barberoux, c'est une espèce de curé Mélier rajeuni avec un précis des autres religions. » Donc on voit bien le modèle 18e siècle plus l'exégèse 19e. Et un scénario ajoute, ça lui donne des idées. La description du livre recouvre bien les points de vue mis en scène dans le chapitre, c'est-à-dire donc ceux du 18e, celui de Voltaire, celui du curé Mélier, et Flaubert a pris des notes titrées « Matérialisme » sur l'édition de 1831 du « Bon sens du curé Mélier », étrennes dédiées aux jésuites pour l'an de grâce 1830, qui signale aussi une note sur la couverture. Cet ouvrage a été saisi, voyez le constitutionnel du 9 octobre 1831. Donc c'est aussi un livre saisi par la police, comme le livre de Hervieux. À un autre moment, le livre de Barberoux est qualifié de dictionnaire philosophique. On a bien ce modèle 18e, de critique religieuse du 18e siècle, mais la dimension comparatiste semble marquante, comme le témoigne un autre scénario dont vous avez un extrait sous les yeux, donc c'est celui-ci. Et dans ce scénario, vous avez ici une grande addition, et vous voyez Barberoux, le livre Barberoux, titre, point d'interrogation, donc il cherche ce titre, Et puis, il fait un essai de titre dans la marge. Alors, moi, ce que j'ai lu, c'est « Examen des critiques de la doctrine chrétienne » suivi d'un abrégé des autres religions par Arsène. Alors, le lièvre ou le lieur, le lièvre semble un nom plus courant. Le ancien élève de l'école normale Genève, 1856, corrigé en 1857. Alors, le lièvre est intéressant parce que dans la correspondance, il y a un pharmacien le lièvre sur lequel Flaubert plaisante. Il plaisante sur le nom du style, puisque le lièvre est pharmacien, pourquoi n'y aurait-il pas des pharmaciens parmi les lièvres? C'est pas très, très fin, mais c'est... Et donc ici, je suis pas sûre de la lecture, hein, vous me direz. Alors la date de 1857 s'explique d'abord peut-être par des raisons diégétiques. Elle correspond à la date du pèlerinage que les bons hommes font à la délivrande, d'après un scénario où Flaubert note « Aspect de l'église de la délivrande en 1857 ». D'autre part, la date relève d'un vraisemblable bibliographique. On a cité ce matin Max Müller, hein, 1856, mais La Roque date de 60, La vie de Jésus de Strauss, traduite par Littré et publiée en 1853, le livre de Lanfray, L'Église et les philosophes au XVIIIe siècle, dont on va reparler, date de 1855, mais on ne peut oublier que 1856 et 1857 correspondent précisément aux dates de prépublication et de parution de Madame Bovary et de son procès, et j'ai signalé la remarque sur le lièvre. Il y a donc, me semble-t-il, une référence personnelle possible et une présence de l'auteur dans cet essai au brouillon auquel Flaubert renonce pour adopter le titre général et sans date de « Examen du christianisme ». Le texte est présenté ensuite comme un sommaire de l'exégèse moderne défendu par le gouvernement. On voit bien que ces doctrines sentent le soufre. Et une variante du manuscrit disait qu'il était interdit par la police. Comment ce livre est-il mis en scène? La référence au livre d'Hervieux apparaît 6 fois dans le chapitre et elle rythme le débat religieux avec le curé. Alors vous avez ces occurrences sous les yeux, je ne les lirai pas évidemment dans leur extension. Première occurrence, c'est la première mention à la suite de la messe, donc où Bouvard et Pécuchet communient pour la première fois. Et ce qui est amusant, c'est que le livre promis par Barberoux tombe littéralement du ciel. Ils trouvèrent dans leur cour un paquet au milieu de l'herbe. Le facteur, comme la maison était close, l'avait jeté par-dessus le mur. C'était l'ouvrage que Barberoux avait promis. Mais comme on l'a vu dans les scénarios, les deux bons hommes, dans un premier mouvement, le repoussent. Et la dernière version du texte module subtilement leur refus selon leur tempérament. Pécuchet le repoussa, Bouvard ne désirait pas le connaître. C'est précisément Bouvard qui va le premier recourir au manuel d'Hervieux, qui oriente ainsi une ligne Bouvard face à une ligne Pécuchet qui évolue différemment. Le parallèle et la dissymétrie entre les deux amis est d'emblée mise en évidence. Étonné par l'absence d'effet de la communion sur sa foi, Bouvard se voit prescrire par le curé la lecture de l'abbé Gaume, tandis que Pécuchet, de plus en plus dévot, se lance dans les lectures mystiques. Et je vous signale que dans les brouillons, c'est Reine, la servante du curé, qui lui passe les volumes en douce. Le résultat est de la part de Pécuchet une série de questions qui le conduisent toujours dans les brouillons à vouloir interroger le pape. Mais faute du pape, il se rabat sur le curé. Du coup, du côté de Bouvard, le dégoût du catéchisme de Gaume le renvoie à la lecture d'Hervieux. Le catéchisme de persévérance par Gaume avait tellement dégoûté Bouvard qu'il prit le volume de Louis Hervieux. Donc ça, c'est la seconde occurrence que vous avez dans le texte, avec la suite des questions que le livre de Louis Hervieux permet de poser au curé. Donc cette seconde occurrence du manuel déclenche une série de questions sur le dogme. Il éveilla des doutes dans l'esprit de Bouvard. Un brouillon précise, il vit que tout n'était pas si clair que le curé prétendait. Ces questions portent sur le péché originel dont on vient de parler, sur l'enfer et la Trinité. Pour la question de l'enfer, Flaubert s'inspire en particulier de l'ancienne et la nouvelle foi de David Friedrich Strauss, sur lequel il a pris des notes. Mais les deux autres points, le dogme du péché originel et celui de la Trinité, renvoient à la première partie du livre de La Roque, qui démontre les points du dogme. De ce point de vue, je me rends compte que le mouvement dialogué est bien construit à partir de la position critique exprimée par les auteurs rationalistes qui mettent en procès le dogme chrétien. Pour préparer le dialogue, Flaubert résume dans des pages de synthèse les arguments pour et les arguments contre, pour l'enfer contre l'enfer, pour le péché originel contre le péché originel, etc. Et les scénarios de détail, il énumère les sujets de discussion en détaillant les points du débat. Alors, prenons le premier point de discussion sur le péché originel. L'exclamation de Bouvard, enfin, ce dogme, c'est à la fin du deuxième paragraphe, enfin ce dogme bouleverse mes notions de justice, avec point d'exclamation, ça vient directement de Laroque, qui dit « Le dogme du péché originel tel que catholiques et protestants l'ont défini jusqu'ici choque si ouvertement toutes les idées de moralité et de justice qu'il n'est point susceptible d'être amendé. » Mais Flaubert laisse de côté, bien sûr, la démonstration militante. Il a dit ailleurs qu'il faut montrer l'absurde et il montre le mur dogmatique de l'abbé Geoffroy, qu'il appelle d'ailleurs ailleurs l'homme à la soutane. « Que voulez-vous ?» disait le curé, « c'est une de ces vérités dont tout le monde est d'accord sans qu'on puisse en fournir de preuves. » Mais plus subtilement, la parole du curé, bien que nourrie très souvent par la lecture de l'apologétique catholique, se trouve parfois issue du discours rationaliste. Plusieurs répliques du curé proviennent d'auteurs cités par Laroque qui présentent leur position en s'y opposant. Par exemple, dans le débat sur la condamnation des enfants qui nous intéresse directement à la suite de l'exposé précédent, la référence à saint Augustin et saint Fulgence est prônée par le curé. Telle est l'opinion de saint Augustin, ajouta le curé, vous l'avez dans le texte, et saint Fulgence enveloppe dans la damnation jusqu'au fœtus. Eh bien, cela vient de Laroque, mais qui cite évidemment saint Augustin et saint Fulgence pour s'en indigner. Il dit « Saint Augustin, saint Fulgence et d'autres condamnent impitoyablement les enfants morts sans baptême à toutes les tortures physiques et morales des damnés. » De même, dans la suite de la discussion sur la Trinité, « Ce qu'on appelle faculté chez l'homme et personne en Dieu, voilà le mystère que prononce le curé. Hein. » Vous avez ça dans les paragraphes qui suivent. En réponse à « Expliquez-moi la Trinité » dit Bouvard, eh bien, c'est une citation de l'abbé Genoude, réfutée par Laroque. Alors, je vais peut-être vous citer Laroque. « Voilà tout le mystère de la Trinité et de l'homme, point d'exclamation, écrit Laroque. En vérité, ce n'est que cela, ce n'était pas la peine de s'effrayer pour si peu. Vous avouez pourtant qu'il y a une petite différence entre les deux mystères. Ce qui est propriété faculté dans l'homme se trouve personne distincte en Dieu. » Mais cette différence est précisément dans la discussion le point essentiel capital. C'est ce qui fait que votre argumentation est vide et que la théorie que vous élevez dessus est bâtie en l'air. Donc, il n'y a pas de doute. Hein. Donc, c'est assez intéressant de voir que ces paroles qui sont mises à distance chez Laroque sont reprises telles quelles dans la bouche du curé. Et je vous passe le détail, mais il y a un autre passage où quand Pécuchet demande des explications sur l'écriture, l'abbé Geoffroy fait état d'une lecture métaphorique de l'écriture inspirée de saint Grégoire et qui est à nouveau citée par Laroque et reprise par Flaubert dans ses notes de lecture. Et Flaubert dit lui-même « Alors, que devient la vérité historique dans ses notes de lecture ?» Et c'est transposé à « en « mais si l'on voit partout des métaphores, que deviendront les faits ?» Donc on voit bien qu'il y a, il me semble, un auteur derrière cette polémique face au curé. Revenons à Louis Hervieux, si vous le voulez bien. Le second recours à Hervieux intervient plus loin dans la discussion, et cette fois-ci, c'est Pécuchet qui prend le relais implicite de Bouvard. Dans la citation 3, vous voyez que l'aplomb sacerdotal du curé conduit Bouvard à essayer de chercher plus fort que Hervieux, et Hervieux est alors consulté implicitement par Pécuchet pour formuler des objections à l'affirmation de l'immutabilité du dogme par le curé dans un échange de propos à l'indirect libre. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans les brouillons, la voix est directement celle de Pécuchet, et vous voyez que dans le fragment 4, nous n'avons pas de locuteur précis, mais un échange à l'indirect libre qui est marqué par le passage à la linéa. Chicane, tout cela ne fait rien à la permanence du dogme. Donc on peut penser que c'est l'abbé Geoffroy. L'ouvrage de Louis Hervieux en signale les variations. Le baptême autrefois était réservé pour les adultes, l'extrême onction ne fut un sacrement qu'au IXe siècle, la présence réelle a été décrétée au VIIIe, le purgatoire reconnu au XVe, l'Immaculée Conception est d'hier. Et là, nous avons une autre source, peu importe, mais enfin je vous indique quand même, c'est un protestant, Hague, qui est beaucoup cité par Flaubert dans ses, qui est cité dans les notes, mais aussi dans les scénarios, comme la source directe de la critique de l'immutabilité du dogme. Et ce qui me paraît à nouveau intéressant, c'est que il y a un nouvel argument qui est donné. Ce n'est pas la contradiction ou l'absurdité du dogme, c'est l'historicité. Hein. C'est face à l'affirmation monolithique, c'est l'histoire qui est donnée. Et on notera que ces deux modalités de l'exégèse rationaliste, c'est-à-dire les contradictions des auteurs et l'historicité de la pensée, c'est la méthode même qui gouverne la pensée critique de Flaubert dans ses notes de lecture sur les auteurs et dans la constitution du sottisier que Bouvard et Pécuchet étaient censés copier. Le troisième recours à Hervieux intervient après les sottises de Madame de Noaris sur les miracles. Je passerai rapidement, c'est la citation 5. « Demandez plutôt à l'abbé Geoffroy, dit-elle, Bouvard n'y tint plus, et ayant repassé son Louis Hervieux, emmena Pécuchet. Il s'ensuit une discussion avec le curé sur les miracles, en grande partie nourrie du Tractatus de Spinoza. » Donc vous voyez derrière l'unicité du nom d'Hervieux, on a une espèce de corpus qui n'est pas si bariolé que ça, qui est très cohérent, c'est Spinoza ou bien l'exégèse religieuse du XIXe siècle. Enfin, le quatrième et dernier recours à Hervieux arrive à un moment clé de la scène, qui est une première conclusion aboutissant à une rupture avec le curé, qui est d'ailleurs dramatisée dans les scénarios. Il concerne l'impossible accord de la foi et de la raison. Un scénario précise, ils s'aperçoivent de l'inutilité des concessions. Pécuchet aurait bien voulu faire s'accorder la foi et la raison, il voit que c'est impossible. Alors, la nouveauté, donc c'est la citation 6, la nouveauté c'est que c'est la première fois qu'Hervieux est cité au style direct entre guillemets. Bouvard lui fit lire ce passage de Louis Hervieux pour connaître l'abîme qui les sépare, opposer leurs axiomes. La raison vous dit, le tout enferme la partie et la foi vous répond par la substantiation. Jésus, communiant avec ses apôtres, avait son corps dans sa main et sa tête dans sa bouche. La raison vous dit, on n'est pas responsable du crime des autres et la foi vous répond par le péché originel, etc. Le discours direct, entre guillemets, crée un effet de réel, accentuant la fiction d'une voie unique du discours rationaliste. Ce débat sur la foi et la raison est bien en effet un lieu commun de la critique lue par Flaubert. Plusieurs auteurs peuvent être invoqués, dont Spinoza. Cento indique des pages de Larocque, mais les mots cités n'y sont pas. Si on cherche dans les scénarios, Flaubert note plusieurs sources. Il y a Pierre Lanfray, que j'ai cité tout à l'heure. Il y a Ludwig Büchner. Et il y a Monseigneur Ségur qui a comme intérêt, qui représente le point de vue opposé au rationalisme parce qu'il prône la suggestion de la science à la foi. Mais comme souvent sur le fond de ses lectures, et je crois que c'est une méthode assez récurrente, Flaubert détache une voie dont il se sert pour écrire le texte. Je sais pas, j'ai encore un peu de temps ?
Oui. Non, merci.
Cette fois-ci, il s'agit bien de celle de Pierre Lanfray, L'Église et les philosophes au XVIIIe siècle, première édition 1855, qui figure dans les références des scénarios, mais qui n'a pas été aperçu par la critique. Donc c'est une première, si je puis dire. Et vous avez l'extrait de Lanfray, qui est au verso du manuscrit. Et vous allez voir, je ne peux pas entrer dans le détail, mais vous allez voir que Flaubert s'inspire assez bien de ce texte. Donc le discours direct est en fait la voix de Lanfray qui surgit, par exemple au milieu... ainsi, le tout est plus grand que la partie, voilà un axiome de la raison, le dogme de la transsubstantiation selon lequel Jésus-Christ, communiant avec ses apôtres, tint son corps dans sa main et mit sa tête dans sa bouche, est en opposition flagrante avec lui, ainsi encore, etc. Donc il souligne l'incompatibilité de la raison et de la foi, mais on sent bien dans la transformation stylistique que fait Flaubert, qu'il donne à entendre dans le texte de Bouvard et Pécuchet, dans les répétitions oratoires des oppositions, donc dans la rythmique du discours, un excès de la pensée rationaliste et une prise de distance possible vis-à-vis des outrances militantes. La lecture de Hervieux clôt provisoirement le débat avec le curé, s'ouvre alors un nouveau mouvement du chapitre qui contient un repère temporel unique après les guerres d'Italie et qui insère une dimension politique dont parlait Paul tout à l'heure, qui lie désormais le débat théologique à l'histoire politique et le situe dans un espace marqué socialement et politiquement, historiquement aussi, celui du château. Et les discussions du château ont pour fonction de mettre en avant le lien de l'Église avec l'ordre établi et la transgression politique que constitue l'enquête de Bouvard et Pécuchet sur le christianisme. Alors, j'en reviens... il me reste combien de temps ?
Vous avez compté 5 minutes.
Ah, 5 minutes. Ah. Alors, je vais peut-être quand même en prendre 10 si je peux. Donc, il y a une deuxième ligne, qui est la ligne Pécuchet, qui est le comparatisme religieux. Ça, c'est relativement bien connu. Mais je voudrais souligner que, à plusieurs reprises, Pécuchet, lorsqu'il est dans la lutte d'érudition, intervient de façon un peu loufoque sur la mythographie. Pécuchet devint transcendant mythologue, il comparait la Vierge à Isis, l'Eucharistie au mât des Perses, etc. Et ce comparatisme est à la fois, bien sûr, un discours burlesque, mais un hommage aux travaux de Burnouf sur Roma, aux études de ses amis historiens des religions et aux lectures de Flaubert. Dans les brouillons, Pécuchet se perdit dans les hautes études mythographiques. Et alors, c'est une chose importante quand même, je voudrais dire, c'est que un des mouvements premiers du chapitre dans les scénarios, c'était tout de suite que, à l'attitude du curé qui veut prouver la légitimité exclusive du christianisme, s'oppose l'idée de la relativité des religions et de l'identité de leurs discours. Et cela, ça va guider, c'est un fil, disons, qui n'apparaît pas parce que le dialogue est assez disperse les sujets, mais c'est le fil de Pécuchet que d'arriver à montrer le relativisme de la du christianisme, et ça culmine avec l'éloge du bouddhisme. Le scandale redoubla quand Pécuchet déclarait qu'il aimait autant le bouddhisme, le prêtre éclata de rire, haha, le bouddhisme, etc. Et Flaubert a une lettre très connue où il dit je lis des choses stupides rien que de l'apologétique chrétienne maintenant. Quand on veut prouver Dieu, c'est alors que la bêtise commence. Connaissez-vous Schopenhauer? J'en lis deux livres, idéaliste et pessimiste, ou plutôt bouddhiste, ça me va. Et là, j'ai travaillé sur ce passage et je peux montrer ça, que le passage sur le bouddhisme est directement inspiré de Schopenhauer cité dans Ludwig Büchner. Donc, il renvoie à Schopenhauer-Büchner dans ses scénarios. Mais c'est intéressant de voir que la citation, la correspondance est directement en écho avec le travail pour ce chapitre. L'autre chose qui peut être intéressante, c'est de montrer que dans le chapitre, la réaction du curé à la citation de Spinoza par les bons hommes est directement symétrique de la réaction du curé au bouddhisme. Et dans les brouillons, il disait à propos du bouddhisme, on ne sait pas ce que c'est, comme dans le dictionnaire des idées reçues. Bon, j'en viens à ma conclusion. Vous me laissez encore 5 minutes. Le discours, donc c'est la question du discours d'auteur qui me paraît important dans ce chapitre. Donc, le premier point, ce sera de dire que plus que tout autre texte de Flaubert, par la polyphonie du discours, le discours indirect libre, le discours direct libre de Bouvard et Pécuchet autorise une voix d'auteur à s'exprimer dans la polyphonie d'une certaine manière, j'ai essayé de le montrer, certaines répliques des personnages sont des voix d'auteur, mais Flaubert est assez soucieux, comme dans l'éducation sentimentale, d'une impassibilité. Alors il dit je suis déchiré entre la foi et la philosophie, voulant être aussi sympathique à l'une qu'à l'autre, c'est-à-dire qu'il y en ait pour les deux bords. Et quand on entend qu'il y en ait pour les deux bords, c'est pas forcément positif. Il me semble que donc se renouvellent sur le plan de la religion les difficultés que Flaubert a rencontrées pour la politique dans l'éducation sentimentale. Et dans une autre lettre de 1860, il fait un grand éloge de la Roque, mais il dit en même temps c'est conçu étroitement, mais est-ce que on peut faire autrement pour une parole militante? Alors, j'ai tout de suite fini. Ce seront mes dernières remarques. Il me semble que cette présence de l'auteur est justement à contrebalancer par les effets de structure. Taro Nakajima, dans sa thèse et dans un article qu'il a publié sur l'utilisation de la roque, montre très subtilement que toute la critique du péché originel inspiré de la roque est une motivation narrative du chapitre sur l'éducation dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que c'est dans la perspective de la critique du péché originel par l'exégèse rationaliste que Bouvard et Pécuchet se lancent dans l'expérimentation de l'éducation. Mais en même temps, il faut conclure que le chapitre 10 montre que l'histoire, l'éducation ne peuvent rien contre la nature qui n'est pas bonne comme la nature rousseauiste. Il dit dans une lettre à Maupassant, Flaubert dit « Je veux montrer que l'éducation, quelle qu'elle soit, ne signifie pas grand-chose et que la nature, avec un grand N, fait tout ou presque tout. » Et il faut aussi tenir compte de la conclusion du chapitre 9. Cette conclusion invite le lecteur, Jacques Neff en a parlé, à distinguer la religion et le sentiment du sacré et du divin. « Bêtise et grandeur de la foi du charbonnier » dit un scénario. On entend de nouveau la voix de Bouvard qui se moque de l'idiot Marcel en prière, qui est décrit comme un fakir en extase. « Quel brut !» dit Bouvard. Alors, Pécuchet lui répond « Pourquoi ? Il assiste peut-être à des choses que tu lui jalouserais. Si tu pouvais les voir, n'y a-t-il pas deux mondes tout à fait distincts ?» Et il termine en disant « Qu'importe la croyance, le principal est de croire. » La croyance de Marcel, qualifiée de brute par Bouvard, mot qui renvoie au sens étymologique de la bête, ressortie au monde du sacré qu'Henri Méchonique distingue du religieux, est définie comme cette fusion des bêtes, de l'humain et du cosmos, qu'il rapproche du divin. La comparaison avec un fakir en extase prend alors, à mon avis, son sens en conclusion d'un chapitre sur la religion. Elle est présentée sur le mode du burlesque et du cliché, mais il me semble que la référence indienne renvoie dans la blague à d'autres univers de croyance. La voix de Pécuchet, qu'importe la croyance, le principal est de croire, fait alors écho à la voix d'Hilarion s'adressant à saint Antoine après l'apparition de Bouddha et la disparition des dieux. Tu viens de voir la croyance de plusieurs centaines de millions d'hommes. Voilà, je finis. Excusez-moi d'avoir été.
Vous êtes absolument dans le temps. Merci beaucoup de cette lecture très, très serrée du texte de ce chapitre. La discussion est ouverte.
Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, je ne sais pas si j'ai bien compris, ce serait d'apprendre la fonction précise de cette invention d'un auteur auquel on met à la bouche les mêmes citations verbales prises d'un autre volume. À quoi ça sert à Flaubert d'inventer un auteur, d'inventer ses discours, ses mots même, et puis de...
L'idée, je n'ai pas tout à fait compris, c'est l'idée de l'invention d'un auteur fictif ?
Oui, de Hermieux, je vais dire.
Oui, Hermieux. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs réponses. D'abord, il y a la réponse de la blague, c'est-à-dire, Flaubert, dans ses notes de scénario, disait donner des indications bibliographiques fausses. Donc, il y a ce jeu borgésien sur les références fictives qui sont mises au même plan que les... Donc il faut évidemment se lancer dans l'érudition pour... Et puis, il me semble que c'est vraiment ce qu'il dit, c'est-à-dire c'est un résumé de l'exégèse religieuse. Quand on parcourt, enfin moi j'ai fait que parcourir un certain nombre de textes, on s'aperçoit que il y a des lieux communs de l'exégèse religieuse, en tout cas au XVIIIe et au XIXe siècle. La critique du dogme, comme celle du péché originel, de la Trinité, ce sont des arguments qui reviennent. Et depuis Spinoza, il y a la critique de la Bible, même antérieure. C'est un nom qui lui permet de résumer sous une voie unitaire des ouvrages qui sont dissymétriques, qui ne critiquent pas tous les mêmes voies. Mais quand il note parfois plusieurs références, c'est effectivement qu'il y a différentes critiques, mais j'ai l'impression que lorsqu'il rédige, il privilégie une ou deux voix pour monter la voix d'une réplique. Et l'effet, c'est aussi cet effet de miroitement discursif qui est lié au fait que Bouvard et Pécuchet, ce sont des discours à l'œuvre, mais aussi pas n'importe quel discours, c'est déjà la vulgate du discours scientifique tel que elle apparaît au travers de la parole de Bouvard et Pécuchet. Mais c'est aussi les discours de vulgarisation dont Flaubert se sert en plus de la culture réelle qu'il a. Parce que, par exemple, sur la culture religieuse, il a une culture religieuse authentique de premier ordre, mais c'est vrai que la robe comme résumé, c'est un condensé utile. Enfin, voilà, ce sont les réponses que je pourrais vous apporter. Peut-être qu'il y en a d'autres.
Oui, étonnant que le docteur Strauss n'apparaisse pas nommément.
Il apparaît pas nommément, mais il est utilisé pour la critique de l'enfer. Mais il n'y a bien sûr pas que le docteur Strauss dans la critique de l'enfer. Il y a aussi des choses, je ne sais plus, il note plusieurs. Et là, la phase des scénarios est très intéressante parce que quand Flaubert dit qu'il a travaillé son chapitre, c'est vrai. Et le passage des notes de lecture au scénario de plus en plus détaillé, à chaque fois, il y a la répétition comme des mémentos des références bibliographiques, enfin des noms d'auteurs qui lui servent de soutien à l'argumentaire. Et c'est vraiment un livre né des livres. Hein. C'est ce que disait Foucault sur la bibliothèque fantastique, c'est tout à fait juste.
Donc Strauss serait quelqu'un qui est plutôt dans la critique rationaliste et
cristalline.
Pas tellement dans l'école historique, comme on le comprend surtout en Allemagne.
Je pense qu'il y a un aplatissement de la différence dans la critique religieuse. C'est aussi ça l'effet dualiste de Hervieux, parce que le fait d'avoir une seule voix, ça permet d'avoir un discours dualiste. Le curé, l'exégèse rationaliste, et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que derrière cette voix, il y a une polyphonie de voix qui sont convergentes, mais qui sont quand même polyphoniques, qui ne sont pas toujours fondées sur les mêmes arguments. Et Flaubert fait sonner aussi, fait entendre résonner dans l'oreille du lecteur les excès aussi de cette critique, qui n'est pas une critique de dentelière. Mais c'est... Oui.
C'était dans la même type de question. D'abord, il est intéressant de voir qu'il y a presque un petit moment où Flaubert se met à écrire, non pas la vie du Gamblin, mais une sorte de traité. Cette petite citation qui est un vieux fictif et tout à fait extraordinaire. Et en fait, j'ai l'impression de trouver qu'il faudrait peut-être réfléchir plus sur ces fameux livres fictifs donnés comme vrais, bien entendu, à Bigfoot. À quel moment ça émerge comme une sorte de nécessité? C'est tout à fait, enfin, je viens de répondre en l'occurrence, mais on peut se poser la question pour les autres.
Oui, je pense qu'il faudrait se poser la question pour les autres livres fictifs et la manière dont ils sont travaillés, parce que c'est sûr que le socialisme...
Ce sont quand même des livres de critique, nationaliste, socialiste, enfin, c'est une zone où Flaubert invente une sorte de synthèse, comme ça, les ouvrages qui devraient exister. Non, l'autre question, c'était tu fais apparaître les deux lignes, la ligne Bouvard, critique rationaliste, et la ligne Pécuchet. Et ça, c'est tout à fait important. Dans les scénarios, ça se dessine comment? À quel moment ça se dessine, cette division? Parce que ce sont quand même deux formes de critiques, d'une certaine manière, logiquement, peu compatibles.
Non, elles sont incompatibles. Elles sont compatibles parce que j'ai pas pu entrer dans le détail, mais je vais donner juste l'exemple de la critique de la Trinité. Quand Larocque critique la Trinité, Flaubert le note, j'avais noté ça dans mes notes, Flaubert il le fait sur le fond du comparatisme religieux, c'est-à-dire avec la Trimurti indienne, la Trinité indienne, et l'une alimente l'autre. Simplement, il passe sous silence dans le dialogue sur la Trinité entre Bouvard et le curé, il passe sous silence la dimension comparatiste qui ressurgit dans la parole de Pécuchet et qui ressurgit après quand il parle des neuf incarnations de Vishnu et Donc c'est contrebalancé. Mais alors tu posais la question de savoir quand est-ce que ça apparaît. En fait, dans les premiers scénarios, les deux sont fascinés tout de suite par, ils se prennent tout de suite de sympathie pour les autres religions. Et c'est pour avoir lu le comparatisme religieux qu'ils se mettent à interroger le curé. Et Flaubert ensuite inverse l'ordre, c'est-à-dire qu'il commence par Louis Hervieux, ils interrogent le curé d'abord sur les points du dogme puis sur la Bible. C'est d'ailleurs le plan de Larocque. Larocque, première partie, critique des dogmes, deuxième partie, critique de la Bible. Et c'est peu à peu qu'émerge, sous une forme burlesque, le comparatisme religieux, mais qui est fondé sur... moi, il me semble que c'est vraiment un hommage. C'est assez fréquent que Flaubert traite de façon burlesque quelque chose de sérieux, et à l'inverse, tourne en ridicule. Voilà. Peut-être, Pierre-Marc, tu avais une question ?
C'est plutôt une insiste dans ce que tu disais juste avant, sur la question pourquoi plutôt l'école rationaliste que l'école historique. Je crois aussi pour des raisons de proportion, parce qu'il y aura un chapitre d'histoire et qu'il faut garder un maximum de moyens ici et mieux inscrire quelque chose qui va à l'actualité, qui va conduire à au débat des cléricaux et des anticléricaux en France dans les années qui suivent, puisqu'on est juste à comprendre la séparation de l'Église et de l'État.
Mais il y a une dimension historique dans la critique de la Bible, et dans la critique, et aussi dans la critique des sacrements, de l'immutabilité du dogme. C'est pas inspiré de Strauss, mais c'est aussi une dimension historique. Et j'ai essayé de souligner que, d'une part, les contradictions logiques et l'argument historique, c'est ce qui gouverne la méthode flaubertienne de critique des, pas seulement de la religion, mais des idées, hein, dans l'histoire.
Oui. Pour revenir à la question la question d'invention, finalement, d'un auteur fictif, alors qu'il aurait pu se référer à des auteurs qu'il a lus, c'est aussi la façon de constituer comme une sorte de dictionnaire des stéréotypes,
voilà,
de la critique rationaliste.
C'est ça.
Dans la logique des idées reçues, finalement. Et donc, c'est... on a une espèce de somme.
On a deux idées reçues, des idées reçues,
des rationalistes,
et voilà.
Mais
voilà. Et la source sont des œuvres réelles pour le monde, et
bien sûr. Voilà. Mais je dirais que Bouvard et Pécuchet, excusez-moi, je vous interromps.
Il y a encore une question.
Ah oui, mais pour répondre à ce qui se... Ouais. L'avantage comme tennis de Bouvard et Pécuchet sur le curé, c'est que le curé a une parole assertive qui est soulignée comme telle, alors que eux posent des questions. Et évidemment, quand on pose des questions, on paraît moins dogmatique que celui qui donne les réponses. Oui, pardon, je ne sais pas si j'ai interrompu.
Ce sont des questions rhétoriques. Pour le lecteur,
bien sûr.
C'est juste une question de détail. L'ouvrage de Laurent Frey, L'Église et les philosophes au XVIIIe, c'est aussi un ouvrage appartenant à la critique rationaliste.
Oui, oui.
Et cet ouvrage, il défend ou il protège contre le christianisme?
Non, c'est un ouvrage qui fait partie.
La robe, il a été mis à l'index, comme vous avez dit, et l'enfant.
L'Anfray, il n'a pas été, je crois pas qu'il ait été mis à l'index, mais il est recommandé à Flaubert par ses amis. Attendez, je dois avoir un.
Voilà. Renan et autres.
Renan et autres. Et il y a Louis Bouillet en 55 qui dit à Flaubert, j'ai vu l'autre jour L'Anfray chez Crépet. La muse, c'est-à-dire Louise Colléas, comme a dit Ferrat, lui a écrit une lettre enflammée au sujet de son livre anti-catholique, et il va chez elle, voilà. Et Flaubert, en 79, anti-catholique, ah oui, anti-catholique, et Flaubert l'utilise comme un argument en faveur de l'incompatibilité de la foi et de la raison. Ça, c'est un argument anti-catholique, mais c'est un argument aussi, C'est pour ça qu'il utilise Monseigneur Ségur pour le même passage. C'est un argument aussi qu'utilisent l'apologie chrétienne, parce que il n'y a pas de science hors de la religion. Donc c'est à double tranchant, mais c'est présenté du point de vue anti-catholique.
Oui, parce que cette argumentation ne semble pas très rationaliste, c'est plutôt
scolastique. Ben, disons que c'est Flaubert accentue le burlesque, mais c'est souligner l'absurdité d'une lecture littérale de l'Eucharistie, etc. Le pied dans la bouche, je ne sais pas comment. Voilà.
Alors, d'autres questions?
Une toute petite chose très triviale sur la lecture du premier nom de Hervieux.
Oui.
Ça doit être le lien, parce que en fait, lui Hervieux, elle Hervieux, c'est une permutation phonétique de de lièvre. Attends, je ne comprends pas, c'est ça. Oui, je suis elle. Oui.
Ah, c'est un anagramme de Hervieux.
Elle Hervieux, c'est la permutation phonétique.
Vieux, ah oui, en verlan.
Oui,
oui. Ah oui, c'est très subtil. Merci beaucoup, Paul.
Mais ça, je ne dois pas être la première à l'avoir vu, parce que c'est beaucoup plus. C'est madame Noaris. Noaris, c'est l'anagramme de raison.
Tu lis beaucoup le canard en chimie, je crois. Non, je plaisante. Mais c'est une très bonne idée. Je crois que ça n'a pas été souligné que Noaris, c'était l'anagramme de raison. Merci beaucoup. Et le lièvre, moi j'avais un argument philologique, c'était que le lièvre était un nom beaucoup plus courant. Il suffit de taper sur LEL sur Google et vous avez tout de suite le lièvre qui apparaît. Et j'ai regardé aujourd'hui à Rouen, j'ai tapé le lièvre Rouen, il y a aussi des lelieurs à Rouen, je me suis dit bon. Mais le lièvre, c'est le seul nom qui apparaît dans la correspondance. Bon, ça faisait des petits indices, mais l'anagramme, c'est
la campagne, on appelle un lièvre un capucin aussi. Je ne sais pas si c'est la campagne. En tout cas, c'est synonyme.
Voilà de quoi faire nourrir une herméneutique. Merci beaucoup. Ah oui, ça c'est...
C'est toujours la raison qui revient.
Oui, voilà.
Alors, si je comprends bien, on fait une pause maintenant, 20 minutes ou...